n'y a aujourd'hui ni tournant, ni changement de cap ou de politique.
Ce résultat est historique. Je suis la candidate du peuple.
Cette marche citoyenne, cette insurrection.
C'est maintenant l'heure de votre rendez-vous avec la vie politique en France. Voici Dimanche Politique.
Philippe Le Caplin.
Avec Romain Zouy, ce qu'on dit les uns et les autres dans les médias. Et nous décrypterons tout cela avec vous, Stéphane Attal. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le cofondateur de l'agence d'opinion Les Influenceurs et vous êtes l'auteur d'un livre intitulé Influencer, c'est la communication. Chez quel éditeur ?
Chez Maxima.
Merci à vous. Vendredi prochain, le gouvernement présentera son projet de réforme des retraites en Conseil des ministres. Et bien sûr, ce jour-là aura lieu la 7e journée interprofessionnelle de grève et de manifestation contre ce texte. D'ici là, on devrait assister à un certain retour à la normale dans les transports par rail, aussi bien à la SNCF qu'à la RATP, dès demain matin. En revanche, les opposants radicaux ne désarment pas. Il y a même un durcissement d'une partie d'entre eux avec plusieurs actions qui ont émaillé cette fin de semaine, Romain.
Oui, trois actions, Philippe, qui ont marqué les esprits. Alors, vendredi à la mi-journée, une intrusion de plusieurs dizaines de manifestants au siège de la CFDT, le syndicat qui appelle à négocier avec le gouvernement concernant cette réforme des retraites, intrusion qualifiée de violente par Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT. Deuxième action, vendredi soir, une manifestation totalement improvisée devant un théâtre parisien à l'intérieur duquel se trouvait Emmanuel Macron. Et puis quelques heures plus tard, troisième action, un début d'incendie visant la rotonde brasserie prisée précisément par le président de la République, là où Emmanuel Macron avait fêté sa victoire en 2017. Alors ce qui ressort des commentaires politiques de ce dimanche dans les différentes émissions, c'est que ces trois actions s'inscrivent dans un contexte de tension qui ne date pas d'hier en France. Écoutez ce qu'en disait à la mi-journée sur France 3, Marine Le Pen, la présidente du Rassemblement National.
Cela fait 14 mois maintenant que la France est à feu et à sang. Et le point commun entre la contestation exprimée par les Gilets jaunes et la contestation aujourd'hui de la réforme des retraites, qui touche à peu près toutes les professions, c'est quand même Emmanuel Macron.
Voilà, un responsable désigné à l'unanimité par l'opposition. C'est donc le président de la République, le président du Parti Les Républicains, Christian Jacob, ne le dit pas autrement.
Oui, le climat social est inquiétant. On voit bien qu'il y a un exercice du pouvoir qui est anxiogène. Le gouvernement porte une responsabilité dans cette tension permanente. Et il y a une certaine forme d'arrogance, de mépris de l'exercice du pouvoir.
Voilà, Christian Jacob invité ce matin du grand rendez-vous Europe 1, CNews, Les Échos. Le pays se fracture de plus en plus et la méthode du gouvernement a aggravé ces fractures, ajoute de son côté une autre membre du parti LR, c'est Rachida Dati. Alors face à toutes ces critiques, eh bien la porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye, tente de défendre l'action de l'exécutif. On écoute Sibeth Ndiaye.
On a là des oppositions qui perdent le nord. Si provoquer de la violence, c'est en fait faire les réformes pour lesquelles vous avez été élu, alors ça, de ce point de vue-là, je peux l'assumer. Je peux assumer qu'il y a eu des engagements de la part du président de la République, de la part des députés LREM quand ils ont été élus, de la part des députés Modem quand ils ont été élus, qui forment aujourd'hui le cœur de la majorité présidentielle, et que c'est sur la base de ces engagements-là que nous nous présentons devant nos concitoyens pour mener des réformes.
La position délicate du gouvernement donc face aux récentes violences, Sibeth Ndiaye qui était ce dimanche dans BFM Politique, Jean-Luc Mélenchon enfin la joue fataliste. C'est l'histoire de la France, affirme le chef de file de la France Insoumise.
C'est l'histoire de France, c'est comme ça. On a enterré le roi Louis XV quand il est arrivé sur le trône, c'était le bien-aimé. On l'a enterré de nuit et les gens jetaient des pierres sur son corbillard. C'est l'histoire de France. Il y a un rapport à la France avec ceux qui la dirigent qui est spécial. Et c'est à lui de faire attention d'abord, à ne pas donner le sentiment qu'il méprise tout le monde. Et tout le monde aujourd'hui ressent son attitude comme du mépris. Je pense qu'il est assez largement responsable, y compris de cette situation, même si évidemment on peut souhaiter que les personnalités publiques puissent continuer à avoir une vie personnelle.
Jean-Luc Mélenchon ce soir sur le plateau de LCI.
Stéphane Attal, spécialiste de l'influence et de la communication. On va parler du fond dans un instant, mais avant cela, Emmanuel Macron au théâtre s'était filmé quasiment en temps réel. L'invasion du siège de la CFDT s'était filmée, aussitôt diffusée sur les réseaux sociaux. YouTube et Facebook sont devenus les nouveaux vecteurs de la protestation.
Pas seulement les nouveaux vecteurs de la protestation. En fait, depuis l'avènement des réseaux sociaux, il faut savoir que Facebook a fêté ses 15 ans. Et depuis 15 ans, le peuple a la parole. Et je pense que les responsables politiques n'ont jamais réellement pris la mesure de ce que ça voulait dire. Alors, En fait, l'utilisation des réseaux sociaux en politique, ça remonte à Barack Obama. Barack Obama a été élu, il l'a dit lui-même, et ça a été analysé comme ça, grâce à la capacité de ses équipes à rentrer en relation directe avec des électeurs, qui sont d'ailleurs devenus des fans, ce que Donald Trump n'a pas manqué d'utiliser ensuite, puisque lui-même était une star de la télé-réalité, repris dans tous les sens, sur tous les réseaux sociaux, et il a utilisé ses fans pour être élu. Et d'ailleurs, les politologues américains, à l'époque, n'ont pas vu vraiment venir la victoire de Donald Trump, parce qu'il comptabilisait les électeurs. Il ne parlait pas des fans. C'est les fans qui ont fait gagner Trump. Donc on est aujourd'hui dans un changement complet de paradigme dans l'utilisation des moyens de communication. Les moyens de communication traditionnels que sont la radio et la télévision, par exemple, servent finalement de tribune macroéconomique. Le ciblage que proposent d'ailleurs les réseaux sociaux quand on veut faire de la publicité dessus, eh bien fonctionne également en termes de communication politique. Ils sont extrêmement puissants et c'est pour ça que quand et c'est presque regrettable parce que aller filmer en direct un acte de violence face à la République française, c'est super grave, quel que soit le représentant de la République.
Alors les gilets jaunes l'année dernière, les opposants à la réforme des retraites cette année usent et abusent donc de ces images sur les réseaux sociaux en espérant faire bouger les politiques. Comment expliquez-vous, vous l'avez pointé, comment expliquez-vous que les politiques français n'aient pas pris eux aussi la mesure et n'utilisent pas ces moyens plus avant? Ils ont l'exemple Obama. Est-ce que vous constatez dans votre activité au quotidien que les politiques commencent à comprendre qu'il faut utiliser ces moyens pour les prochains scrutins?
Alors oui, la dernière élection présidentielle a marqué une sorte de point de bascule à ce sujet dans les moyens utilisés. Les équipes de community management qu'il y avait dans les permanences ont grossi au fil du temps jusqu'au deuxième tour de la présidentielle. Et vous parliez tout à l'heure de la soirée à la Rotonde, qui en fait célébrait le premier tour. Ça a été repris partout. Et ça a été repris partout négativement. Si Emmanuel Macron n'avait pas été contre Marine Le Pen au deuxième tour, peut-être que cette séquence lui aurait été fatale.
C'est la même chose que quelques années auparavant, Nicolas Sarkozy au Fouquet's. Sur le fond maintenant, Stéphane Attal, toutes ces actions que nous décrivait tout à l'heure Romain Ouzoui, est-ce qu'elles expliquent, en le compensant, l'essoufflement du mouvement contre la réforme des retraites?
Alors, moi je dirais que je n'approuve évidemment jamais ce que dit Marine Le Pen, quel que soit ce qu'elle dit et où elle le dit. Mais juste pour reprendre ce qu'elle a dit sur votre antenne il y a un instant, ça fait depuis décembre ou novembre 2018 que la France vit dans un climat d'abord insurrectionnel et ensuite dans un climat de revendication. Alors on a, sur le plan de la formule, c'est intéressant, on est passé de l'insurrection à la revendication. Qu'est-ce qui est la vraie différence entre les deux? C'est la reprise par les syndicats, c'est-à-dire c'est l'organisation. Le mouvement des Gilets jaunes, il est parti d'une revendication très légitime qui était le fait de vouloir avoir de l'essence pour aller travailler. Et on a vu des gens en plein désespoir. Et ces gens-là n'ont pas été récupérés par les syndicats, ils ont été récupérés par les extrêmes et par les violences. Aujourd'hui, ce sont les syndicats qui ont à nouveau la main. J'ai le sentiment que quelque part, ça sert Emmanuel Macron, qui se retrouve finalement avec un contre-pouvoir organisé face à lui, ce qui n'était pas le cas avec les Gilets jaunes. Il a, pendant le début de sa mandature, anesthésié à peu près l'ensemble de la politique française, y compris l'offre syndicale, si je puis m'exprimer ainsi. Quelque part, et je pense probablement sans le vouloir, il leur a redonné la parole. On se retrouve finalement aujourd'hui avec une confrontation, non pas bipartie, c'est-à-dire Front National contre LREM, mais avec les syndicats au centre, qui peuvent être l'arbitre de la prochaine présidentielle.
Stéphane Attal de l'agence d'opinion Les Influenceurs. Vous écoutez Dimanche Politique sur RFI.
Philippe Le Caplain.
Anne Hidalgo a eu le sourire ce matin en ouvrant le journal du dimanche. L'hebdomadaire publiait un sondage IFOP qui la donne tranquillement gagnante du premier tour de l'élection municipale qui aura lieu à Paris dans moins de deux mois maintenant. Sa liste Paris en commun obtiendrait 25% des voix devant la liste de Rachida Dati, ancienne garde des Sceaux de Nicolas Sarkozy, 19%. Tout cela au détriment des députés République en marche Benjamin Griveaux, 15% et Cédric Villani, 13%. Alors, dans la classe politique, Romain Ouzoui, il n'est question que de ce sondage aujourd'hui.
Oui, avec notamment Rachida Dati, qui a été ce dimanche invitée du grand jury RTL Le Figaro LCI et qui a le vent en poupe. Rachida Dati, donc désormais, vous l'avez dit, challenger de la maire sortante. Voilà ce qu'elle perçoit à travers ce sondage.
C'est une note d'ambiance.
Ça démontre quoi? Ça démontre que les Parisiens attendent de vous une solution au déclin de Paris. Et ils ont compris que le vote utile, ça pouvait être moi. Parce que moi, ils disent, madame, vous avez vu ce que la gauche nous a fait? On est exaspérés, on vote plus. Mais ça arrange madame Hidalgo que ça ne vote plus. Moi, je veux qu'ils votent, qu'ils traduisent leur exaspération et leur écœurement. Je veux qu'ils votent.
Voilà l'appel de Rachida Dati donc aux Parisiens. Selon ce sondage donc qui fait en parler, le candidat La République En Marche, Benjamin Griveaux, donc, se placerait à la troisième place. La faute à qui? Bien, demandez-le à Sibeth Ndiaye, porte-parole du gouvernement.
Vous n'êtes pas sans ignorer qu'à Paris, nous avons un candidat dissident qui est Cédric Villani. Et au fond, ce sondage, il est le reflet du fait que unis, c'est mieux que quand on est désunis.
Vous lui dites quoi, là, ce matin?
Moi, je lui dis que, au fond, se met dans une situation où le fait d'avoir deux candidats, ça favorise la réélection d'Anne Hidalgo, ce que nous ne souhaitons pas. Et donc, je crois qu'il faut regarder le candidat qui est le mieux placé. De toute évidence, c'est Benjamin Griveaux. Et je souhaite très vivement que Cédric Villani puisse se ranger derrière lui.
Voilà, c'est le grand espoir hein, de La République En Marche, à travers donc ces mots de Sibeth Ndiaye ce dimanche. Pour le moment, en tout cas, c'est bien Anne Hidalgo qui apparaît le mieux placée pour l'emporter à nouveau à Paris, à gauche, où l'union avec les écologistes au second tour ne fait pas de doute. Pour le premier secrétaire du Parti Socialiste, Olivier Faure.
Sera effectivement une alliance de second tour. Je pense que David Cormand autrefois, aujourd'hui Julien Bayou, ont été très clairs sur l'orientation de leur parti politique, qui est un parti qui s'ancre à gauche. J'ai écouté Yannick Jadot qui lui-même dit qu'il n'est pas question de faire alliance ni avec le Front National, ça va de soi, ni avec les Républicains, ni avec La République En Marche. Bon, je vous laisse faire par soustraction ce qu'il reste et avec qui il est prêt à travailler.
Voilà le calcul d'Olivier Faure ce dimanche sur Radio J.
On va reparler d'Anne Hidalgo dans un instant, Stéphane Attal. Avant cela, Rachida Dati, qu'on vient d'écouter, elle redonne espoir à la droite. Elle a travaillé son image.
Écoutez, en fait, je l'ai regardé aujourd'hui, sachant que je venais vous voir. Et je dois dire que j'ai été très agréablement surpris. Encore une fois, je parle de la forme. Elle a un ton extrêmement posé. Elle connaît ses dossiers par cœur. Je pense que, et ça, c'est extrêmement vendeur. C'est même pas de la communication, c'est presque du respect des gens à qui elle propose de voter pour elle. Elle a une maîtrise assez forte donc du contenu, de l'offre politique qu'elle propose aux Parisiens, et en même temps, elle a gommé ce qui faisait ses défauts et ce qui a fait d'elle un peu une star même des caricaturistes, c'est-à-dire qu'elle est beaucoup moins agressive, moins vindicative, beaucoup plus posée. Et du coup, bah, ça fait une candidate qui est crédible.
Anne Hidalgo, elle creuse son avantage, on vient de le voir, sur ses concurrents, alors qu'elle apparaissait en difficulté il y a un an. Hein. Il y avait eu le fiasco du Vélib, les innombrables travaux qui exaspèrent les Parisiens, les embouteillages monstres qui mettent en colère d'autres, ainsi que les banlieusards. Comment expliquer que l'image de la maire n'en soit pas écornée et qu'aujourd'hui elle caracole en tête?
Alors c'est inexplicable si on parle de l'image, parce que je ne connais pas de mon côté un seul Parisien qui n'utilise pas des noms assez difficiles à dire en parlant d'elle et de sa politique. Donc je me demande si on parle vraiment d'image, mais je pense qu'on parle plutôt d'intention de vote. Et à ce moment-là, les intentions de vote, il faut les mesurer aux intentions de non-vote. Est-ce que ce ne sera pas plutôt la laisser en place pour que les amis d'Emmanuel Macron, les petits Macron, les faux Macron, viennent aussi prendre la capitale parisienne. Parce que Sibeth Ndiaye, tout à l'heure, à votre micro, avait entièrement raison. Il suffit de faire une addition. Si Cédric Villani n'existait pas comme candidat, aujourd'hui, c'est Griveaux qui serait en tête des intentions de vote. Donc, la réalité, c'est que Anne Hidalgo, elle a un matelas d'électeurs. Sincèrement, je ne sais pas où ils sont, mais ils existent probablement. Et elle tient probablement sur le fait qu'elle est en train de se détacher un petit peu de l'image socialiste.
Donc on a Hidalgo en premier, Dati en deuxième, puis viennent donc Griveaux et Villani. La division est fatale aux macronistes, on le voit dans ce sondage. La capitale avait pourtant massivement voté pour Emmanuel Macron lors de la présidentielle en 2017. Encore 33% des voix lors des élections européennes. Concernant Benjamin Griveaux, dont parlait Sibeth Ndiaye tout à l'heure, comment expliquer que, alors qu'il est investi, qu'il est le chouchou du président, il réalise, dans les sondages, un si mauvais score?
Benjamin Griveaux, c'est le bon élève. Il est là depuis le début. Il a pénétré à l'Élysée lors de la passation de pouvoir. Il faisait partie de l'équipe des Macron Boys qui sont rentrés avec lui. Et finalement, sur le plan de l'image, ça donne quoi? Bah, ça donne un petit Macron. C'est pas Macron, c'est un faux, c'est quelqu'un qui veut lui ressembler, c'est peut-être le calife qui veut être calife à la place du calife. C'est is no good, c'est celui qui s'énerve, c'est celui qui vitupère. Il a été porte-parole du gouvernement, enfin il a quand même été pas mal l'homme de la première partie de la mandature d'Emmanuel Macron jusqu'à se prendre des coups de bélier dans son ministère. Donc il est pas très populaire, Benjamin Griveaux. Et ça, c'est une pierre dans le jardin de Cédric Villani.
Toujours concernant ces municipales, hier, deux conseillers municipaux, les Républicains de l'Ain, ont déposé un recours devant le Conseil d'État contre la décision du gouvernement de ne plus attribuer de couleur politique aux candidats sans étiquette dans les communes de moins de 9000 habitants. Ça s'appelle le nuançage. Ça consiste à attribuer une couleur politique aux candidats qui ont déposé une liste sans étiquette, par exemple divers droite ou divers gauche ou centriste. La volonté du gouvernement donc de limiter le champ de tout cela est critiquée par les oppositions qui soupçonnent l'exécutif romain de vouloir brouiller la lisibilité des résultats de ces municipales.
Oui, la première qui est montée au créneau, c'était jeudi, Marine Le Pen. On ne peut pas rayer de la carte les électeurs de 96% des communes françaises, même pour faire plaisir à Jupiter, ainsi écrit la présidente du Rassemblement National sur Twitter. Ce dimanche, c'est le président du parti qui a déposé un recours, vous le disiez, devant le Conseil d'État, Christian Jacob, qui a expliqué pourquoi lui aussi, il dénonçait ce nuançage.
D'abord, c'est de changer les règles d'évaluation des résultats 2 mois avant les élections municipales. De se concentrer uniquement, encore une fois, sur la France des villes. Seule la France des villes présente un intérêt pour le président de la République.
Qu'est-ce que vous dénoncez?
Les combines. Les combines et le choix d'un ministre de l'Intérieur qui choisit l'intérêt de son propre parti politique, c'est-à-dire une petite combine politicienne, au détriment de l'intérêt général.
Voilà les mots de Christian Jacob ce dimanche donc sur Europe 1. Alors, sommé de s'expliquer, Sibeth Ndiaye a défendu donc ce nouveau seuil de 9000 habitants au lieu de 3500 pour l'attribution d'une couleur politique aux candidats sans étiquette au municipal. On écoute la porte-parole du gouvernement.
Je pense que c'est un seuil qui est un bon seuil, parce qu'au fond, d'ailleurs, quand on regarde là où les maires se déclarent sans étiquette, c'est quand même très majoritairement sous ce seuil de 9000. Et donc, ça correspond à ce qu'est la réalité de la vie politique et qui ne date pas ni de ce quinquennat et de la transformation du champ politique qu'on a initié, ni même du quinquennat d'avant, pour tout vous avouer.
Sibeth Ndiaye, porte-parole du gouvernement, à la mi-journée sur BFM TV.
On a l'impression que il faut absolument désétiqueter, si je puis dire, ces municipales. Il faut plus les marquer dans le logo politique. Ça se verrait sur les tracts, sur les affiches, mais également dans ce système voulu par le gouvernement, Stéphane Attal.
Moi, je trouve ça intéressant, en tout cas, à observer et à discuter, parce que il y a un sondage qui est sorti il y a quelques mois. Qui annonce quand même qu'un maire sur deux envisage de ne pas se représenter à l'élection municipale. C'est monumental. Ça fait 18 000 maires. 18 000 maires qui ne veulent plus être maires. Donc c'est très difficile. Peut-être que c'est une façon de donner envie à des candidats de se présenter sans avoir le poids d'un parti sur les épaules. Ce serait pas complètement absurde de ce point de vue-là. Maintenant, sur le plan des calculs politiques, il y a pas, encore une fois, c'est un problème de communication. Il n'y a pas de justification. C'est une annonce. Le gouvernement fait une annonce par Christophe Castaner, qui en est responsable, mais qui est même pas le plus populaire de tous les ministres. Et derrière, laisse l'opposition s'opposer. Il faut quand même pas s'étonner. Et ça va peut-être pas s'arrêter.
Comment expliquer que les logos, les appartenances politiques se font beaucoup plus discrètes aujourd'hui? Est-ce que c'est lié avec la défiance qu'ont les Français, les électeurs, vis-à-vis de la classe politique?
De mon point de vue, oui. Aujourd'hui, et d'ailleurs c'est aussi un problème, c'est qu'on élit plus une personne qu'une couleur politique, et on élit donc une politique qui doit être sans logo. Voilà. Alors aujourd'hui, Emmanuel Macron, il paye un peu tout ça. Parce que finalement, il a tout sur les épaules. Mais comme dans tous les quinquennats, il faut toujours un peu de mémoire dans ce milieu-là. Depuis que le quinquennat existe, le président est un homme très seul.
Merci pour ces commentaires et ces analyses, Stéphane Attal, cofondateur de l'agence Les Influenceurs. Et je rappelle le titre de votre livre, Influencer, c'est la communication, aux éditions Maxima. La politique encore, sur RFI, Mardi Politique recevra Manuel Bompard, le chef de la délégation insoumise au Parlement européen.
Priorité santé, Caroline.